Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Ainsi soit-il.
Vous êtes le Dieu qui seul accomplit des prodiges. Vous avez manifesté votre puissance parmi les peuples. Mes très chers frères, notre Seigneur Jésus-Christ ne s'est pas contenté de prêcher à nos oreilles la parole de Dieu. Dimanche dernier, nous avons entendu cette merveilleuse parabole des quatre terrains du semeur qui sortit semer sa semence. C'est notre Seigneur Jésus-Christ prêchant par ses ministres, prêchant la parole de Dieu de telle sorte que celle-ci tombe dans la bonne terre ou ailleurs. L'évangile de la quinquagésime, c'est aujourd'hui la quinquagésime, nous apprend que notre Seigneur Jésus-Christ devait encore souffrir, mourir et ressusciter pour notre salut. De sorte que, nous disent les auteurs, nous ne sommes pas tant les enfants du Verbe incarné que de notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe éternel de Dieu, souffrant et accomplissant à notre avantage la grande expiation des péchés sur le mont du Calvaire. Nous sommes les enfants, nous sommes les brebis du bon pasteur crucifié et ressuscité. Pas simplement incarné, s'il devait être crucifié, il devait s'incarner, mais nous ne sommes pas les enfants du Verbe incarné seulement, nous sommes les enfants du Verbe incarné qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité pour nous. L'effet principal et fondamental de la rédemption, c'est la charité. Sans la charité, on ne peut pas être sauvé. Et on ne peut posséder la charité, recevoir la charité qu'au sein de l'Église. En dehors de l'Église, il n'y a pas de charité possible. La charité n'existe pas, la charité n'est pas donnée. Dieu donne certaines grâces d'amorce pour faire rentrer dans l'Église, mais il ne donne la charité que dans l'Église, car la charité est que extensive à l'état de grâce. Et donc à la régénération par le baptême. Il se trouve, mes très chers frères, que nous avons à voir plusieurs choses aujourd'hui, puisque c'est le grand dimanche de la charité. Notre Sainte Mère l'Église nous fait méditer ce 13e chapitre de la première aux Corinthiens, dans l'Épître. Il nous faut absolument grappiller quelque chose, de peur de mal commencer ce carême. Nous aurons donc, avec l'aide du Saint-Esprit, à voir que, premièrement, la charité est le plus grand des dons. Nous verrons un tout petit peu l'effet de sa puissance, nous en dirons un mot. Et nous verrons aussi quelles sont ses opérations en nous, il y a deux opérations principales, et nous verrons lesquelles. Ceci nous conduira au deuxième point, qui sera le plus long, puisque nous verrons les caractères de la charité, selon saint Paul, mis en perspective avec ceux de l'amour propre. Et enfin, nous terminerons très rapidement par un troisième point, nous verrons comment nous préparer au carême. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Nous avons commencé ce sermon par les paroles du graduel. Vous êtes le Dieu qui seul accompli des prodiges, vous avez manifesté votre puissance parmi les peuples, vous avez d'un bras puissant libéré votre peuple, les enfants d'Israël et de Joseph. La puissance de Dieu, mes très chers frères, nous seuls pouvons en témoigner. Lorsque l'on voit des catastrophes naturelles, lorsque l'on voit des choses très belles qui se produisent dans le ciel, comme des phénomènes naturels, lorsque l'on voit des grandes choses qui viennent de la main de Dieu, beaucoup de gens qui sont dans des fausses religions peuvent s'écrier « Dieu est grand » et effectivement Dieu est grand. Dieu est très grand, il est un grand Dieu, grand roi au-dessus, élevé au-dessus des cieux. Donc bien entendu, l'homme peut reconnaître la grandeur de Dieu. L'homme peut reconnaître Dieu dans ses œuvres, c'est ce que nous dit saint Paul, c'est ce que nous enseigne l'Église. Mais la puissance de Dieu, on ne la connaît que quand on l'éprouve. Lorsqu'on est frappé par une catastrophe naturelle, ou quand il nous arrive quelque chose de très heureux, d'un point de vue une bonne rencontre, une bonne opération, que sais-je, quelque chose qui réussit, ce n'est pas que l'on ne puisse pas avoir une idée de la puissance de Dieu, mais la puissance de Dieu se manifeste spécialement dans l'ordre surnaturel. La puissance de Dieu qui se manifeste dans l'ordre naturel est grande, et effectivement, elle est, sous un certain rapport, la puissance de Dieu. Mais cette puissance de Dieu est très inférieure, cet ordre de manifestation de la puissance de Dieu est très inférieure si on le compare avec le déploiement de son bras dans l'ordre purement surnaturel, c'est-à-dire pas simplement de la nature, mais de la grâce. Faire passer de la mort spirituelle à la vie, nous l'avons déjà dit il n'y a pas si longtemps, c'est un acte de puissance plus grand que celui de créer le monde ex nihilo. Faire passer de la mort spirituelle à la vie est un acte de puissance qui est, à strictement parler, le bras puissant de Dieu qui a libéré son peuple, les enfants d'Israël et de Joseph. Lorsque Dieu fait des grandes choses dans l'ordre de la nature, nous l'admirons. Lorsqu'il fait de plus grandes choses dans l'ordre de la grâce, nous l'adorons. La grâce efficace qu'il nous donne, lorsqu'il donne à quelqu'un sa grâce efficace, de telle sorte que cette personne puisse être réellement tirée de la mort spirituelle, eh bien, n'est autre que la puissance de la grâce efficace n'est autre que la puissance par laquelle Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est la même puissance. Notre Seigneur Jésus-Christ, méritant pour nous au calvaire la grâce sanctifiante, la grâce efficace, nous communique la puissance avec laquelle il s'est lui-même ressuscité d'entre les morts. C'est la puissance divine de la résurrection, rien moins que cela. Dire autre chose, c'est finalement, d'une manière ou d'une autre, renouer avec les erreurs du pélagianisme qui disait que la grâce que Dieu nous donne est une grâce qui est proportionnée à la nature, c'est une grâce d'adjuvance, c'est une grâce par laquelle Dieu aide l'homme tel qu'il est pour que l'homme puisse plus facilement faire le bien. Ce plus facilement, c'est la bête noire de notre père saint Augustin, c'est ce plus facilement qui faisait que Pélage était un hérétique. Dieu nous donne la grâce afin que nous puissions faire. Sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Donc cette grâce qui nous fait sortir non seulement de cette impuissance pratique dans laquelle nous sommes de faire des actes qui plaisent à Dieu, mais cette grâce qui nous fait sortir de la mauvaise volonté par laquelle nous sommes incapables de vouloir plaire à Dieu et vouloir lui obéir, cette grâce n'est autre que la grâce qui est liée, la manifestation, l'application de la puissance qui a ressuscité notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. Nous devons donc vivre en tant que régénérés, nous devons vivre dans la reconnaissance. Voilà le grand thème qui revient constamment dans les pères, spécialement notre père saint Augustin. La reconnaissance. Si nous ne vivons pas dans la reconnaissance pour ce que Dieu a fait de nous, il se trouve que, je ne dis pas que infailliblement nous n'avons rien reçu de Dieu, parce que si nous n'avons rien reçu de Dieu, ce ne serait pas étonnant que nous vivions dans l'ingratitude. Mais ça montre que ce que nous avons reçu de Dieu, nous y correspondons si mal que c'est comme si nous n'avions rien reçu alors que nous avons reçu. Il y a dans l'ingratitude quelque chose d'horrible, quelque chose de révoltant, et même on peut le voir dans des exemples humains, dans l'ingratitude manifestée simplement du point de vue de la nature, il y a quelque chose de révoltant parce que quelque chose de grand a été fait, et la reconnaissance n'étant pas le résultat de ce don, de cet octroi, de cette chose qu'il était impossible par nous-mêmes d'obtenir, eh bien a quelque chose de criminel. Ne pas être ingrat envers Dieu, ne pas vivre dans la reconnaissance, ce n'est pas simplement un abus des grâces, il y a quelque chose de méchant, il y a quelque chose de mauvais, il y a quelque chose de pervers dans l'ingratitude. Dans le trait, juste après le graduel, voici ce que nous fait dire l'Église. Acclamez Dieu, terre entière, servez le Seigneur dans la joie, entrez dans sa présence avec jubilation, sachez que le Seigneur est Dieu. Il nous faut acclamer le Seigneur. Pourquoi ? Parce que c'est la seule façon de manifester notre reconnaissance. Si nous devons l'acclamer, mes très chers frères, c'est parce qu'il a fait pour nous de grandes choses, selon cette parole de la Sainte Vierge. Or, on ne peut être dans la gratitude, que si l'on aime ce que l'on a reçu. Lorsque vous donnez à un petit enfant un cadeau, et que ce cadeau ne lui plaît pas du tout, pas le moins du monde, eh bien, ce petit enfant ne peut pas être dans la gratitude d'une certaine manière, puisque ce que vous lui avez donné ne lui plaît pas du tout. Pour nous-mêmes, il n'en va pas exactement de la même manière, mais il y a quelque chose d'analogue. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous fait la grâce, nous donne le privilège de passer de la mort spirituelle à la vie, nous devons aimer ce don que nous avons reçu. Car si nous le connaissons mais que nous ne l'aimons pas, nous ne pourrons pas évidemment être dans la gratitude. Mais qui ne peut ne pas aimer la vie spirituelle qui nous a été donnée à la place de la mort spirituelle. Eh bien, la réponse est très simple. Personne, à peu près personne, n'est capable d'aimer ce don de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un don qui va à l'encontre de ce que nous apprécions en nous-mêmes, qui va à l'encontre de notre nature depuis la chute, qui va à l'encontre de ce vieil homme qui est coextensif avec notre nature propre. On ne peut être dans la gratitude, disais-je, que si l'on aime ce que l'on a reçu. Et si on l'aime, alors on le pratique. Si vous donnez à un enfant un cadeau et que ce cadeau lui plaît beaucoup, un jouet par exemple, et que ce jouet plaît beaucoup à cet enfant immédiatement va se mettre à jouer avec. Eh bien, mutatis mutandis évidemment, lorsque nous aimons cette vie spirituelle que Dieu nous a donnée, eh bien immédiatement nous la pratiquons. Et c'est ce qu'on appelle la charité, la vie de la charité, la vie de la grâce, qui n'est autre que la vie de la charité vive, la charité qui vit en nous, la charité par laquelle nous accomplissons toutes nos actions dans le souvenir de Dieu et pour l'amour de Dieu. C'est pour cela que les théologiens nous disent que la charité est la forme de toutes les vertus. C'est-à-dire qu'on peut envisager les vertus, telle vertu en elle-même, mais si la charité n'en est pas la forme, alors cette vertu n'est que l'écorce d'une vertu. Elle n'est pas une vertu. Elle n'est pas vraiment une vertu. Ce qui n'est que matériel ne correspond pas à la réalité de la chose. C'est une chose morte, c'est une chose privée de vie, c'est une chose qui n'existe pas en réalité. Un pape matériel, c'est un non-pape en réalité, donc cela revient au même. Pour prendre un exemple. Il se trouve donc que si nous sommes par exemple généreux, mais que ce n'est pas pour l'amour de Dieu que nous sommes généreux, nous avons bien l'écorce de la générosité, c'est-à-dire que la générosité qui est la nôtre s'oppose à l'avarice, bien entendu. Mais comme cette générosité n'est pas faite pour l'amour de Dieu, comme elle n'a pas pour forme la vertu, il se trouve que c'est une générosité qui n'en est pas une, c'est une générosité qui n'est pas méritoire, et quand bien même je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, cela ne me servirait de rien. Et ce n'est pas moi qui le dis, je n'oserais pas. Parce que cela veut dire qu'il y a un nombre infini d'hommes qui sont condamnés par ce que nous venons de dire. Je n'oserais pas le dire moi-même si ce n'était la parole de Dieu elle-même qui le disait. Quand je distribuerai tous mes biens pour nourrir les pauvres, si je n'ai pas la charité, dit saint Paul, cela ne me sert de rien. Saint Paul, c'est le Saint-Esprit. On ne retrouve pas dans l'homme charnel, dans l'homme mondain, cette charité. Cette charité est caractéristique des chrétiens. Et s'il y a quelqu'un qui n'est pas chrétien et qui écoute ces paroles, qu'il sache bien, mes très chers frères, qu'il est impossible pour lui de posséder la charité ou de l'imiter. Parce que la charité est quelque chose qui est en amont des bonnes œuvres. Qui peut, lorsqu'il est païen, distribuer tous ses biens pour nourrir les pauvres? On a vu des philosophes païens qui quittaient toute chose, comme disent les pères, comme font remarquer les pères, ils quittent toute chose par mépris des richesses, mais non pas pour suivre notre Seigneur Jésus-Christ, comme dit saint Pierre dans l'épître pour les saints abbés. Il se trouve que on peut mimer la charité. C'est très difficile de mimer la charité, mais ce n'est pas impossible. On peut matériellement donner tous ses biens aux pauvres pour nourrir les pauvres. Mais on peut le faire sans la charité. Donc l'homme naturel n'est pas incapable de mimer la charité, il est incapable de l'avoir. Tout ce qui se fait sans la charité ne vaut rien. Et de bien grandes choses sont faites sans la charité. De grandes actions humanitaires, de grandes générosités, comme je l'ai dit, de grandes choses qui sont faites. Si la charité n'est pas là, si la charité n'est pas la forme de ces vertus sont mortes, ces vertus sont vaines. Ça ne veut pas dire qu'il faut dire à ceux qui pratiquent ces vertus sans la charité, vous pourriez tout autant faire autre chose. Mais il se trouve que devant Dieu, ils pourraient tout autant faire autre chose, ça reviendrait au même, à peu près au même. Pas tout à fait au même, c'est vrai, mais à peu près au même. Sans la charité, on ne peut pas être sauvé. Sans la charité, la meilleure œuvre bonne ne vaut strictement rien aux yeux de Dieu. Voilà qui est absolument fondamental. La charité est inaccessible à l'homme naturel. Il peut, encore une fois, en imiter les œuvres extérieures, mais il ne peut pas s'inventer la charité. La charité est répandue dans nos cœurs, dit l'Écriture, par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Elle est la vie même de Dieu. Et cette vie même de Dieu, c'est Dieu qui la donne. Si quelqu'un se forge une couronne en or pur, s'il l'agrémente de joyaux, s'il se fait faire un manteau d'hermine parsemé de fleurs de lys, et s'il se fait faire un trône en or et il s'assied dessus, cela ne fait pas de lui un roi. La royauté vient de Dieu, la royauté vient de l'hérédité, la royauté vient du sang. On peut mimer un roi, on ne peut pas s'improviser roi. On peut mimer la charité, on ne peut pas avoir la charité si l'on ne l'a pas. La charité, mes très chers frères, est le principe qui rend nos actions méritoires parce que divines. C'est la vie même de Dieu, nous l'avons dit. La charité, par conséquent, nous arrache à nous-mêmes, c'est-à-dire au royaume du diable, et nous transporte dans celui de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est parce que Dieu nous a aimés le premier, qu'il nous a donné son Saint-Esprit, après que nous ayons été régénérés par l'œuvre du Christ, qu'il nous a donné son Saint-Esprit, que la charité a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit. La charité qui est la nôtre est l'effet de l'amour concret, réel et efficace de Dieu pour nous. Puisque notre nature, depuis la chute, est une nature d'ordre qui est animée par un mouvement centrifuge qu'on appelle la concupiscence, la triple concupiscence, qui fait que nous fuyons les commandements de Dieu, nous fuyons notre raison d'être, donc nous nous fuyons nous-mêmes. La charité qui a été répandue dans nos cœurs par le Saint-Esprit nous arrache à nous-mêmes et nous transporte dans le royaume du Fils éternel de Dieu. Il y a donc, disons-le, mes très chers frères, et c'est pour cela qu'elle est inimitable et qu'elle est en quelque sorte haïssable tant qu'on ne l'a pas reçue, elle est haïssable par le vieil homme, la charité est un principe d'aliénation du vieil homme. La charité, en nous restituant à notre destination originelle et donc naturelle, puisque nous sommes faits pour ça, mais surnaturelle dans le sens de l'ordre de la grâce, en nous restituant à notre destination originelle et surnaturelle, qui n'est autre que Dieu aimé et obéi et participé, nous trouvons comme arrachés de ce que nous croyons être nous-mêmes depuis que nous sommes nés. C'est ce qui s'appelle le vieil homme ou la concupiscence. Il y a donc un double aspect dans la charité, mes très chers frères. Il y a deux opérations dans la charité. Il y a un aspect vivifiant, puisqu'elle est l'âme de vertu, et elle est même l'âme de la foi. La foi est morte sans la charité. La foi sans les œuvres est morte, mais on ne peut pas avoir les œuvres sans la charité. Donc la foi sans la charité est morte. Elle a un aspect vivifiant, puisqu'elle nous donne la foi vive. Elle fait que notre foi est vive et que nous avons les œuvres de la foi, qui procèdent de la foi. Un aspect vivifiant et un aspect mortifiant, dans le sens où elle produit la crucifixion du vieil homme qui s'oppose à l'accession à notre fin surnaturelle. Si nous avons vraiment reçu la charité, alors nous allons être happés par un sentiment centripète, c'est-à-dire qui cherche à rejoindre le centre, contrairement au mouvement centrifuge, et il se trouve que si nous n'avions pas de vieil homme, nous courrions dans la voie de la vie éternelle. Mais comme nous avons le vieil homme, nous sommes comme un athlète dans une carrière qui court, mais il court et il est attaché à lui, il y a des poids. Il court de toutes ses forces, et il fait bien puisque c'est ce qu'il faut faire, mais en même temps il est freiné par ses poids, et ses poids ne sont autres que la triple concupiscence, l'amour de nous-mêmes, l'amour propre, ce qu'on appelle l'amour propre. Donc l'amour propre, mes très chers frères, s'oppose à la charité, comme les poids qui sont attachés à l'athlète s'opposent au fait que l'athlète court librement pour remporter la couronne. Il nous faut donc, comme disait saint Paul l'autre jour, il nous faut donc courir de manière à remporter cette couronne. Nous avons donc à voir brièvement, malheureusement, parce qu'il faut être très bref, même si chez beaucoup d'auteurs, on trouve des considérations vraiment magnifiques, il nous faut voir brièvement les caractères de la charité. Saint Paul, au milieu de cette épître, après nous avoir dit que sans la charité, rien ne valait et que nous ne sommes rien sans la charité, quand bien même nous livrerions notre corps pour être brûlés, c'est-à-dire si nous avions l'acte du martyr extérieur, mais si nous n'avions pas la charité, cela ne nous servirait de rien. Et Saint Paul nous donne certains caractères, nous énumère certains caractères de la charité, de telle sorte que nous puissions comprendre, et je rappelle à tous ceux qui écoutent, c'est que la charité ne consiste pas à imiter ce qui va être dit de ces caractères. La charité est ce don de Dieu qui n'est autre que le don de la vie même de Dieu vivant en nous, et ce Dieu qui nous a aimés le premier, et qui se manifeste par les caractères qui vont suivre. Ce n'est pas parce qu'on s'efforce d'avoir ces caractères qu'on a la charité. Mais si l'on veut avoir la charité, si on veut se persuader d'avoir la charité parce qu'on veut être sauvé, alors s'il nous manque un de ces caractères, c'est que probablement notre charité est en train d'être phagocytée, dévorée, étouffée par les épines de la concupiscence. La charité, dit saint Paul, n'est point envieuse. La charité est patiente, tout d'abord, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, elle n'agit pas avec témérité, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle n'est pas ambitieuse, elle ne cherche pas ses propres intérêts, elle ne s'irrite pas, elle ne pense pas le mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, elle souffre tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Un premier test, je le redis souvent, mais un premier test de notre charité, mais de notre gratitude envers Dieu, c'est que si nous entendons ces choses et que nous, ces caractères de la charité, que nous haussons les épaules et que nous levons les yeux au ciel en disant tout ceci c'est des enfantillages, ce sont des choses qui nous empêchent d'être efficaces dans la lutte, c'est que notre gratitude n'est que de l'ingratitude. Et que nous ne sommes pas chrétiens. Si nous écoutons cette liste et que nous nous disons « mais j'ai l'impression que c'est simplement des critères généraux d'une certaine sociabilité sans laquelle on ne peut pas vraiment vivre avec notre prochain », nous sommes pires que des ingrats. Nous sommes des naturalistes. Et nous sommes des gens qui, très probablement, n'avons pas la moindre de ces caractères de la charité, parce que, croyant qu'il s'agit simplement de cette politesse que nous devons avoir envers notre prochain, quitte à n'en penser pas moins, par ailleurs, eh bien, il se trouve que, puisque nous avons une telle idée de la vie en société, même du point de vue naturel, il se trouve que nous devons probablement être les pires personnes au monde, même d'un point de vue naturel. Lorsque, en revanche, mes très chers frères, nous écoutons avec une oreille bien disposée, un cœur déjà bon, sinon excellent, mais une oreille bien disposée ces choses, et que nous nous disons, j'ai l'impression qu'il me manque beaucoup de ces points, beaucoup de ces caractères, et que les quelques caractères que la charité qui est en moi a ne semblent pas pouvoir être comparés à ce qui est dit parce que tout me semble fade, tout me semble impur en moi, alors c'est que vous êtes dans la bonne voie. C'est que vous ne vous confiez pas en vos propres forces et que vous êtes aidable dans le sens où vous ne croyez pas ne pas avoir besoin d'aide. Il vaut mieux se s'avouer pauvre, aveugle et nu devant Dieu plutôt que riche, clairvoyant et richement vêtu. La charité, dit saint Paul, est patiente. Le premier caractère de la charité, c'est qu'elle souffre les délais de Dieu. C'est-à-dire que si Dieu ne semble pas être à son rendez-vous à elle, elle le souffre elle le supporte avec patience. La patience, ce n'est pas pour rien qu'elle est en tête des caractères de la charité. Il n'y a pas forcément une hiérarchisation dans les caractères de la charité, mais ce n'est pas pour rien que saint Paul commence par la charité. La charité est patiente. Si nous aimons véritablement ce Dieu qui nous a aimés en premier, alors que nous étions encore ses ennemis, alors nous pouvons bien souffrir un peu que Dieu ne fasse pas exactement tout ce que nous voulons au moment où nous lui demandons. Parce qu'il fut un temps où nous n'aimions pas Dieu, et en ce temps-là, Dieu nous aimait déjà. Il a été patient, nous pouvons bien être patients, Il a été patient alors que nous étions ingrats et méchants. Nous pouvons bien être patients aujourd'hui, mes très chers frères, alors que Dieu est si bon et il a tant fait pour nous jusqu'à présent. Nous savons qu'il veut notre bien, puisqu'il nous a déjà fait octroyer le baptême qui est peut-être le bien le plus excellent qu'on puisse souhaiter et obtenir ici-bas. Il nous a déjà fait donner le baptême, soyons patients, il nous donnera tout le reste en temps voulu. La charité est patiente. La charité gémit devant Dieu en attendant sa délivrance. C'est-à-dire qu'elle ne se tourne pas les pouces en disant « bon, ben, comme un philosophe, bon, ben voilà, j'attends, c'est pas encore le temps de Dieu ». Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle sait que sous un certain rapport, si elle a à être patiente, si elle a à souffrir des délais de Dieu, c'est parce que Dieu n'est pas, d'une part, Dieu n'est pas son serviteur qui obéit au premier claquement de doigts, et ensuite, Dieu, probablement, est obligé d'user, disons, de retard, parce qu'elle est trop mauvaise, et que si Dieu lui donnait ce qu'elle demande, ce que cette âme demande, si Dieu donnait à cette âme ce qu'elle demande immédiatement, cela serait comme un poison pour elle. Nous devons donc, en étant patients, mes très chers frères, gémir devant Dieu, gémir sur nos manquements passés, sur notre impuissance à faire le bien, gémir sur la force de notre vieil homme. Vous allez dire, mais si nous gémissons de cette manière-là, nous confessons que nous n'avons pas de charité. C'est une erreur. C'est une erreur. Car si nous gémissons en déplorant notre méchanceté, notre perversité, la triple concupiscence, la force du vieil homme en nous, c'est que déjà la charité est en train de croître, et peut-être même, sans le savoir, peut-être même qu'elle est déjà un peu plus forte que le vieil homme. Si nous pouvons passer notre temps dans la patience, dans l'attente du temps de Dieu, en gémissant devant Dieu sans se lasser, alors la charité est probablement, du point de vue de Dieu, probablement beaucoup plus forte en nous, beaucoup plus prédominante en nous que nous pouvons l'imaginer. En revanche, l'amour-propre, car nous mettons en parallèle l'œuvre de la charité, les caractéristiques de la charité et celle de l'amour-propre, l'amour-propre ne veut pas dépendre des mouvements, des moments de Dieu. Il n'en veut faire qu'à sa tête, il ne veut en faire qu'à sa tête, et il a une petite idée pour la gloire de Dieu, et si Dieu n'est pas au rendez-vous, c'est que d'une certaine manière, eh bien, ils l'ont découronné, et c'est à moi de lui forger une couronne. L'amour-propre ne veut pas dépendre des moments de Dieu. Il s'emporte contre les défauts du prochain, il s'emporte éventuellement même contre ses propres défauts à lui, et c'est une façon d'être orgueilleux. Lorsque l'on fait une erreur, lorsqu'on a une faiblesse, lorsque l'on chute, lorsqu'on ne fait pas quelque chose aussi bien que l'on voudrait, et puis que l'on s'en veut, qu'on se donne des claques, qu'on s'injurie soi-même, qu'on se regarde dans un miroir et qu'on se crache dessus, ce n'est pas de l'humilité du tout. C'est de l'orgueil, parce que ça veut dire que l'on s'est déçu soi-même et que l'on s'adorerait à deux genoux soi-même si l'on avait réussi. Il ne faut pas nous imaginer, mes très chers frères, que parce que nous nous décevons, bien souvent nous éprouvons de la déception envers nous-mêmes, que nous sommes humbles. Au contraire, nous sommes orgueilleux. Parce que si la charité est prédominante en nous, alors nous saurons aussi, nous le verrons dans un instant, nous saurons aussi que tout le bien que nous faisons, et par la charité bien entendu, c'est Dieu qui le fait en nous. Et si nous en sommes rendus participants, si Dieu nous récompense nos mérites et nous accorde, reconnaît nos mérites dans ses œuvres, c'est que ce sont les mérites du Christ qui nous sont appliqués en propre. La charité donc est patiente. Elle est patiente et l'amour propre est impatient. Ensuite, il est dit, la charité est pleine de bonté. Une autre caractéristique de la charité, c'est donc la bonté. La bonté, qu'est-ce que c'est? Sans entrer trop dans les détails, c'est une sorte de paix et de tranquillité sous la main de Dieu. Cela peut paraître étonnant parce que on peut se dire que la bonté, c'est le fait de manifester, d'être bon, de manifester, disons, justement, ce qui est les caractéristiques de la bonté, de faire des bonnes choses pour notre prochain. Bien sûr, c'est vrai, mais en amont de cela, la bonté, pensez à la bonne terre, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'être bien disposé vis-à-vis de Dieu. n'est pas simplement le fait de faire de bonnes choses envers notre prochain. Beaucoup de méchants font de bonnes choses. Regardez tous ces mafieux qui ont redoré les églises, qui ont reconstruit des églises, qui ont ils peuvent faire des choses. C'est une chose qui arrive assez souvent. Mais est-ce que c'est de la bonté? Non, c'est simplement au mieux c'est de la bonté matérielle et au pire on essaye d'acheter Dieu. La bonté, c'est une attitude paisible et tranquille sous la main de Dieu qui rend l'homme capable de manifester le caractère de la charité qu'on appelle la bonté, c'est-à-dire une certaine mansuétude envers son prochain, une certaine sérénité et avec tout ce qui s'ensuit. Par comparaison, l'amour-propre murmure, il est à charge à tout le monde, il est à charge à lui-même et il est à charge à Dieu. Et Dieu lui est à charge. C'est-à-dire que, alors que le terrain bon, la bonne terre, attend que Dieu y jette la semence, la mauvaise terre, la terre qui n'est pas bonne, l'amour propre, est constamment en train de murmurer contre tout, et même contre soi-même, ça rejoint ce que nous avons dit en premier, il est à charge à tout le monde et il est insupportable. Vous voyez, il y a dans le caractère de la charité qu'on appelle la bonté, quelque chose qui rend aimable, qui nous rend aimable à notre prochain. Et qu'est-ce qui rend aimable, qui nous rend aimable vis-à-vis de notre prochain? C'est quand nous ne sommes pas un poids pour le prochain. Donc nous commençons à être bons pour le prochain dans la mesure où, ne murmurant pas contre la main de Dieu qui nous façonne ou qui nous frappe, eh bien nous sommes dans cette tranquillité qui est agréable au prochain. Vous allez dire évidemment si on est gentil avec le prochain, on lui laisse la possibilité de prendre l'avantage. Nous ne sommes pas ici en train de parler de certaines vertus de politesse sociale naturelle qui effectivement doivent être contrebalancées par d'autres choses dans le monde des mondains, sans quoi évidemment une chose bonne est sujette à l'abus des autres. C'est pour cela qu'on dit dans le monde, il ne faut pas être trop gentil parce que sinon on marche sur vous. Laissons les mondains, avec leur science mondaine, laissons les morts enterrer les morts. Il se trouve, mes très chers frères, que si nous sommes tranquilles et paisibles sous la main de Dieu, Dieu lui-même nous défendra notre bonté et personne n'en prendra avantage. Et si les hommes peuvent, jusqu'à un certain point, prendre avantage de notre bonté, la main de Dieu sous laquelle nous nous humilions et qui nous rend bons parce qu'elle nous rend sans pierre, sans épines et sans oiseaux, Cette main saura nous protéger contre la perversité et la malice des hommes. Soyons-en certains, mes très chers frères, car Dieu est un Dieu vivant, il est le Dieu éternel, il est le Dieu vivant, il n'est pas une idéologie, il n'est pas un principe de politesse qu'il nous faut contrebalancer par d'autres principes. Celui qui est bon, par la charité, est gardé, protégé par celui qui est la bonté suprême. Dieu seul est bon, dit notre Seigneur. Ensuite, saint Paul dit que la charité n'est point envieuse. Il s'agit de l'envie ici. Comment ne pas être envieux, mes très chers frères, sinon en ne s'appropriant pas pour soi-même les grâces de Dieu ? C'est-à-dire que si, lorsque j'arrive à faire quelque œuvre bonne, sous la motion éventuellement de la grâce et même de la charité, parce que la charité vient et va en fonction des périodes de la vie, si je suis infidèle, ça ne veut pas dire que je n'ai pas eu la charité juste avant, mais ça veut dire que je ne l'ai plus. Donc si, par la grâce de Dieu, et sous la motion de la charité, j'ai fait une œuvre bonne, et que je me l'approprie, comme si elle venait de moi, alors, il se trouve, mes très chers frères, que bien souvent, je vais être envieux des grâces que Dieu fait à mon prochain. La charité se réjouit du bien d'autrui comme du sien propre. Si je ne m'approprie pas les grâces que Dieu me fait, alors je me réjouirai des grâces que Dieu fait à mon prochain. Si je m'approprie les grâces que Dieu me fait, et que je décrète qu'elles viennent de mon propre fond, alors je voudrais écraser mon prochain, et je vais être jaloux lorsque mon prochain va manifester des vertus et plus grandes, peut-être éventuellement plus égales ou plus grandes aux miennes, plus grandes que les miennes, et je vais être envieux, je vais être jaloux. Or, la charité n'est pas envieuse. En revanche, l'amour propre, qui se nourrit de l'usurpation dont nous avons parlé, trouve dans la félicité des autres son supplice. Si nous voyons quelqu'un qui est plus concentré que nous dans la prière, si nous voyons quelqu'un qui est un meilleur père de famille que nous pouvons l'être, si nous voyons quelqu'un qui a une épouse meilleure épouse que la nôtre, nous sommes dans l'envie. Nous sommes torturés par le bien que Dieu fait à notre prochain. Et évidemment, si nous sommes envieux, nous allons nous retourner contre Dieu et lui reprocher toutes sortes de choses. Il se trouve, mes très chers frères, que la charité n'est pas envieuse. Donc vous voyez, rien que ces caractères-là, ces quelques caractères que nous venons de passer très rapidement en revue, montrent que si la charité est quelque chose qui nous rend divins par un certain côté, par un autre côté, elle nous rend parfaitement crucifiés. Et si nous rechignons à la crucifixion, alors ça veut dire tout simplement que nous ne voulons pas être divins, mais ça veut dire aussi que nous nous aimons tellement nous-mêmes que, de cet amour qu'on appelle de nous-mêmes, qu'on appelle la concupiscence, que la charité est comme évincée de notre cœur, elle est en train de décroître totalement, et sur le plateau de la balance de notre cœur, sur les deux plateaux de la balance de notre cœur, la concupiscence est plus forte, et de telle sorte qu'elle est en train de phagocyter et d'invalider la charité jusqu'à l'éteindre totalement. C'est pour cela que notre Seigneur dit « la charité du plus grand nombre se refroidira ». La charité donc est patiente, pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle n'agit pas avec témérité. La charité est donc sage, elle est prudente, elle est circonspecte dans les affaires de Dieu, qui sont les affaires de son Père, c'est-à-dire ses affaires propres. Elle manifeste de la maturité, et nous disent les auteurs qui commentent ce passage, un grand attachement à l'ordre. La charité n'agit pas avec témérité. Beaucoup de gens agissent avec témérité, qui s'imaginent agir avec courage. Mais comme dit le proverbe, la témérité n'est pas le courage. Le fait de lorsqu'on a une arme adéquate, on peut se jeter devant un lion, on peut aller au devant d'un lion. Mais lorsqu'on a que ses mains nues et qu'on n'est pas sans son, on ne doit pas se jeter sur un lion, parce qu'on va être déchiré par lui. Alors, mes très chers frères, un des caractères de la charité, c'est qu'elle est sage, elle n'est pas téméraire. C'est-à-dire qu'elle se méfie de sa propre faiblesse, non pas la faiblesse de la charité en soi, mais la faiblesse de telle charité, tel niveau de charité que nous avons, elle se méfie, donc elle se renforce par sa prudence, par sa maturité, par sa sagesse, par son attachement à l'ordre. Bien des choses sont faites en dépit de l'ordre, et il se trouve que quand on en fait qu'à sa tête, qu'on agit en foulant aux pieds les règles de la charité fraternelle, lorsque l'on agit d'une façon qui est contraire aux maximes de l'Évangile, et que l'on agit soi-disant pour la gloire de Dieu avec témérité, il ne faut pas s'étonner si on se fait taper sur les doigts. Quand bien même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Méditons sur ces choses. La témérité n'est pas le caractère de la charité. Qu'est-ce que ça veut dire alors? La charité est pusillanime, qu'elle calcule, qu'elle... Non, elle fait preuve de maturité. Quand on est un père de famille et que l'on se jette bien en tête, comme on dit, quand on se jette dans la militance au détriment de son épouse, au détriment de l'éducation de ses enfants, au détriment de sa vie de famille, ce n'est pas la charité qui nous pousse, c'est une témérité malvenue. C'est une témérité qui s'explique par diverses raisons, la plupart du temps psychologiques, mais ce n'est pas la charité. Et donc, si ce n'est pas la charité, comment s'étonner que Dieu ne la bénisse pas? Comment ne s'étonner que Dieu ne la protège pas Vous allez dire, mais Dieu, regardez les martyrs, Dieu n'a pas protégé l'amour qu'ils ont eu pour eux, puisqu'il les a laissés être torturés et être mis à mort. Au contraire, il a parfait leur amour pour lui. Mais lorsque nous sommes persécutés pour nos fautes propres, et non pas pour l'Évangile, mais explicitement l'Évangile, alors il se trouve, mes très chers frères, que nous souffrons pour nos propres péchés. Cela ne veut pas dire que c'est inutile, ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas chrétiens, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas en train d'œuvrer avec nous, mais cela ne nous sert de rien sous un certain rapport du point de vue de la charité. Cela nous sert sans doute pour acquérir plus de maturité et enfin la charité, mais il se trouve que ce n'est pas le fruit de la charité, ce n'est pas la récompense de la charité. Donc faisons très attention quand on qualifie à la légère les gens de martyrs. Le chrétien n'est martyr que dans la mesure où il est persécuté pour l'Évangile, parce qu'il vivait selon les maximes de l'Évangile, et non pas parce que toutes sortes de choses. Elle n'est pas téméraire, elle n'agit pas avec témérité. Alors, en revanche, nous l'avons dit, vous l'avez compris, l'amour-propre, est précipité, il agit d'une façon inconsidérée, bien entendu, nous en avons déjà parlé. La charité ne s'enfle pas d'orgueil. Ça, c'est peut-être le moins difficile à comprendre, parce que nous avons tous horreur des gens qui sont enflés d'orgueil. Évidemment, dès que l'orgueil se déguise, nous n'en avons plus horreur. L'orgueil nous fait horreur lorsqu'il est dans sa crudité et lorsqu'on peut le voir à l'œil nu. Maintenant, lorsqu'il se déguise, nous l'aimons beaucoup. Eh bien, la charité ne s'enfle pas d'orgueil, parce que l'orgueil fait enfler. C'est une maladie, l'orgueil, en réalité. C'est une maladie de l'âme, c'est une des maladies les plus terribles de l'âme. C'est de l'hydropisie de l'âme. Elle n'agit pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil. La charité aime, nous disent les auteurs, à se remplir de la grandeur de Dieu et à s'humilier devant lui. Elle aime, la charité, à contempler son propre néant. Attention, il y a une façon de contempler son propre néant qui consiste à dire « Regardez, faible comme je suis, regardez tout ce que j'ai fait. » Non, ça, ce n'est pas la contemplation du néant. Mais vous voyez, ça peut être une tentation. Non, regardez, quand on a fait quelque chose, lorsqu'on est dans l'ordre, et que l'on est arrivé à quelque chose de vrai, quelque chose de beau, quelque chose de grand, quelque chose de réel, quelque chose de fait pour l'amour de Dieu, et que l'on en reçoit des louanges, parce que à certains moments, mes très chers frères, il faut bien recevoir des louanges, eh bien, on s'humilie en disant « Tout ce qui est bon, je le dois uniquement à la grâce de Dieu qui a agi en moi. » Et qui a agi en moi. Et il se trouve que plein d'autres choses qui sont des défauts à cette œuvre sont dues, eh bien, à la faiblesse qui est la mienne et à l'infidélité trop souvent répétée qui a été la mienne tout au long des années et pour laquelle Dieu ne m'a pas châtié. La charité va de pair avec l'humilité. La charité aime à se remplir du spectacle de la grandeur de Dieu. Et on ne peut pas se remplir du spectacle de la grandeur de Dieu sans confesser la grandeur de Dieu. Combien de fois, disons-nous, mes très chers frères, dans notre cœur à Dieu, « Mon Dieu, vous êtes grand. Mon Dieu, vous êtes puissant. Mon Dieu, vous êtes infini. » Alors, comme dirait l'autre, « Mais il le sait. C'est pas la peine de lui dire. » Ah oui, il le sait. Il le sait, évidemment. Et nous aussi, nous le savons. Et si nous savons quelque chose et que nous ne voulons pas dire ce que nous savons, c'est que nous n'aimons pas ce que nous savons. Lorsqu'un étranger nous dit « Quel est le régime de la France ?» Vous dites « Oui, bon, on sait. On sait. Ah bon, moi, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est ?» Bon, c'est la République, d'accord, oui, on le sait. On dirait que ça vous fait du mal de dire ce que vous savez. Bah oui, un petit peu quand même. Ah, donc c'est la même chose, vous voyez mes très chers frères. Lorsque on dit, mais vous savez, Dieu est grand, Dieu est infini, Dieu est immense, Dieu est tout puissant. Oui, bon, ça va, on le sait. Mais pourquoi est-ce que ça vous fait mal de le dire? Ah ben oui, mais parce que ça me fait ressentir combien je suis faible, combien je suis impuissant. Ah, c'est que vous n'aimez pas ce Dieu si grand. Parce que si vous confessiez sa grandeur, son infinitude, son omnipotence, son omniscience, alors Vous, et si vous le confessiez, confessiez ces choses que l'Église nous enseigne sur lui, que la théologie nous enseigne sur lui, et que vous aimiez en même temps ce Dieu, vous vous rendriez compte que ce Dieu, c'est votre Père et que vous êtes son Fils. Mais comme vous n'êtes qu'un esclave qui craignait Dieu du bout des lèvres parce que vous avez peur qu'il vous châtie, vous en faites le moins possible et vous parlez le moins possible de lui, quitte à laisser entendre quand même que vous n'êtes pas un imbécile et que vous arrivez quand même à faire des choses, et que si la théologie, si la piété parle du néant, de l'homme, etc., c'est quand même des phrases un peu ampoulées, il ne faut pas exagérer, parce que l'homme est quand même capable de beaucoup de choses. Regardez ceci, cela. Mes très chers frères, il est dit que la charité, un de ses caractères, c'est qu'elle ne s'enfle pas d'orgueil. Et quand on ne confesse pas de plein cœur et de bon cœur la grandeur et la bonté et l'infinitude de Dieu, c'est qu'on n'aime pas Dieu et qu'on est enflé d'orgueil. La charité ne s'enfle pas d'orgueil parce qu'elle aime à s'humilier devant Dieu. Et quand on s'humilie devant Dieu, c'est comme cela qu'on est vraiment grand, mais on ne se veut pas, on ne veut pas s'humilier pour être grand, on veut s'humilier parce que Dieu seul est grand. Et en confessant que Dieu seul est grand, nous participons de sa grandeur. Et elle n'a pas peur de contempler son propre néant. Non pas comme un poète noir et tout souffrant qui contemple la grandeur de son néant pour s'en repaître. Nous devons contempler, nous y viendrons dans un instant. Il ne faut pas hésiter à contempler la grandeur de son néant, parce qu'il est fonction de la grandeur de Dieu. Un abîme appelle un autre abîme, dit l'Écriture. Et effectivement, plus nous contemplons notre néant, plus nous confessons notre néant, plus aussi l'immensité de la puissance de Dieu sera mise à notre profit, et la charité aura des œuvres qui sont au-delà de ce qu'on peut penser, parce que ce seront des œuvres divines. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. La charité ne s'enfle pas d'orgueil. En revanche, évidemment, l'amour propre ne pense qu'à sa propre excellence. La charité, nous dit ensuite saint Paul, la charité n'est pas ambitieuse. Ambitieuse, certains traduisent par dédaigneuse. C'est-à-dire que La charité, le chrétien qui est vraiment charitable, ne méprise que lui-même. Il y aurait bien des choses à dire sur cela, mais il faut aller un peu plus loin. Donc, souvenons-nous simplement que l'ambition dont il est question ici nous pousse à mépriser notre prochain, c'est un petit peu comme quand on dit marcher sur la tête des autres pour arriver. Eh bien, la charité fait que nous méprisons nous-mêmes, et nous ne méprisons que nous-mêmes, de telle sorte que, par contraste, l'amour-propre méprise évidemment son prochain et ne cherche que les choses qui le rendent grand. C'est-à-dire que lorsque Dieu, selon l'ordre, et selon l'ordre de sa providence explicite, nous charge de telle ou telle chose, lorsque cette chose ne nous met pas en valeur, eh bien, nous ne nous sentons pas humiliés par Dieu. Lorsque nous aurions voulu être une grande collaboratrice des plus grands militants, je parle pour les dames, et que nous aurions voulu avoir notre chaîne, notre blog, éditer nos livres à grand renfort de publicité, être invités dans toutes sortes de religions différentes et dans toutes sortes de chapelles différentes, etc. Et que la Providence veut simplement que nous soyons une épouse soumise à son mari et qui élève avec fidélité ses enfants, eh bien, lorsque c'est le cas, il n'y a que l'acceptation de la volonté de Dieu qui fait que la charité, eh bien, n'est pas ambitieuse. Évidemment, il y a un peu d'ironie dans ce que je dis, évidemment, parce que cette ambition est une mauvaise ambition, bien entendu, puisque toutes ces choses-là mènent tout simplement à la damnation et certainement pas au salut. Mais il se trouve qu'il y a une voie qui paraît droite à l'homme, dit Salomon, et qui est tortueuse en réalité et qui ne plaît pas à Dieu. Lorsque nous avions certaines ambitions pour nous-mêmes, et qu'il se trouve que la Providence nous assigne des tâches qui sont bien inférieures, la charité n'est pas ambitieuse. La charité ne recherche pas des choses qui sont non pas grandes pour Dieu, mais grandes pour elle-même. Alors vous allez dire, mais j'aurais voulu faire quelque chose de grand pour Dieu. Est-ce que c'est vraiment pour Dieu? Changer les couches de ses bébés, lorsqu'on est une femme chrétienne, une mère de famille qui a reçu le sacrement de mariage et qui vit véritablement dans l'ordre, c'est une œuvre divine. Nous l'avons déjà dit précédemment, c'est une œuvre divine. Et faire autre chose qui est peut-être plus glorieux pour Dieu, et que les gens voient peut-être plus et savent plus apprécier, eh bien, n'est pas l'œuvre de Dieu, mais au contraire, c'est l'œuvre du diable, c'est l'œuvre du vieil homme. Donc, vous voyez, la charité n'est pas ambitieuse, elle n'est pas dédaigneuse des petites choses que Dieu lui donne à faire. En revanche, l'amour-propre cherche à faire pour Dieu, bien sûr, mais les plus grandes choses qui le mettraient en valeur. Méfions-nous, mes très chers frères, lorsque nous voulons faire des choses, des grandes choses, et que nous sommes déçus de ne pas pouvoir faire de grandes choses. Ne nous réjouissons pas non plus, n'abaissons pas nos critères en disant bon, ben, ce que je fais c'est déjà pas mal, etc. Et puis finalement notre amour propre revoit les choses à la baisse et arrive quand même à être satisfait avec sa propre médiocrité. Ça c'est autre chose, vous voyez la perversité du vieil homme. La charité n'est pas ambitieuse, la charité ne méprise pas les petites choses que Dieu lui assigne à faire. Au contraire, elle les fait avec amour, pour l'amour, pour la plus grande gloire de Dieu d'ailleurs. Et d'ailleurs, elle ne cherche pas ses propres intérêts. C'est pour cela qu'elle n'est pas ambitieuse et l'intérêt propre vont de pair ici. Elle ne cherche pas ses propres intérêts. Elle cherche à plaire à Dieu, même à son propre désavantage. J'aurais voulu faire quelque chose de grand pour Dieu et il se trouve que je suis humilié, je suis rabaissé par ce que je fais actuellement pour Dieu. Eh bien, sachez que si vous le faites vraiment pour l'amour de Dieu, c'est un caractère de la charité. Vous n'avez pas cherché votre propre intérêt, et effectivement, il se trouve que c'est véritablement l'œuvre de la charité qui est en vous qui se manifeste. La charité qui ne cherche pas son intérêt craint de se chercher soi-même en toute chose. C'est pour cela que c'est la charité qui a fait que certains se sont cachés lorsqu'ils ont dû être nommés évêques. Certains se sont cachés lorsqu'ils ont dû être ordonnés prêtres. Certains se sont cachés lorsqu'ils ont dû être chargés de certaines charges publiques, certaines choses qui allaient les mettre en avant malgré eux. Pourquoi ? Non pas d'une façon par timidité, mais parce que se cherchant si peu eux-mêmes, qu'ils étaient persuadés que d'autres valaient mieux qu'eux. Et effectivement, dans la mesure où l'on pense cela, bien souvent, c'est que l'on est prêt à être employé pour les plus grandes charges. La charité qui cherche, une charité qui ne cherche pas ses propres intérêts, ne cherche que la gloire, véritablement la gloire de Dieu. Or, la gloire de Dieu, on y accède, mes très chers frères, que dans la mesure où, apparemment, selon les apparences et selon le témoignage des sens, et même de l'âme, on est crucifié à cause de Dieu. Si l'on fait toute chose sans chercher son propre intérêt et en se défiant des façons subtiles dont l'intérêt propre est intéressé à telle chose, alors véritablement on agira par la charité. En revanche, bien entendu, vous l'avez compris, l'amour propre ne cherche dans l'œuvre de Dieu que sert ses propres intérêts, bien entendu. Je ne vais pas m'étendre parce que c'est assez facile à comprendre comment. Ensuite, nous venons à d'autres caractéristiques, d'autres caractères. Elle ne s'irrite pas. La charité ne s'émeut pas de la rigueur de Dieu, quand bien même la rigueur de Dieu la frapperait elle-même, frapperait l'âme qui est le chrétien. Dieu est rigoureux envers elle, et pourtant, ça fait longtemps qu'elle est campée dans une grande charité, cette âme. Eh bien, parce que la charité est véritable chez elle, elle ne s'émeut pas de la rigueur de Dieu. Regardez, s'il y a un homme qui était un homme bon et juste, c'était bien le saint homme Job. Eh bien, Dieu a déchaîné sa rigueur contre lui, ou plutôt il a laissé Satan éprouver saint Job comme vous le savez, en le privant de ses biens, en le privant de ses enfants, et en faisant que sa femme lui donne de mauvais conseils. Eh bien, qu'est-ce qu'a-t-il dit ? Il a dit, nous recevons tout de la main de Dieu, le Seigneur a donné, le Seigneur a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est ainsi que la charité de Job s'est avérée véritable, authentique, forte, prédominante. La charité ne s'émeut pas de la rigueur de Dieu. Elle ne s'en prend qu'à ses propres péchés. Oui, lorsque nous qui ne sommes pas à Saint Job, lorsque Dieu nous châtie, après que nous ayons été fidèles, Une autre charité ne va pas nous faire, nous empêche de dire justement, mais comment est-ce que Dieu peut me traiter comme ça après tout ce que j'ai fait pour lui? Non, Dieu m'a traité de cette manière-là parce que j'avais encore des dettes à éponger, et ma charité me fait comprendre que c'est parce que Dieu m'aime qu'il me fait régler mes dettes ici-bas et non pas dans l'au-delà. En revanche, évidemment, l'amour de Dieu, l'amour propre murmure contre Dieu. Il n'est jamais content de sa conduite, de la conduite de Dieu. Dieu ne sait jamais ce qu'il fait. De toute façon, si j'étais à la place de Dieu, je saurais mieux. Alors, vous allez dire, mais personne ne dit jamais cela. C'est vrai que personne ne le dit jamais. Mais tout le monde agit comme si c'était le cas. L'aigreur, la colère, tout ceci sont, appliqués bien sûr au prochain, tout ceci sont la manifestation d'une concupiscence prédominante. Ce n'est pas la charité qui règne dans notre cœur, c'est la concupiscence. Et effectivement, la concupiscence nous fait nous mettre en colère contre notre prochain, fût-ce pour la gloire de Dieu. Vous voyez, quand on insulte les gens, quand on insulte les mécréants, lorsqu'on dit toutes sortes de grossièretés sur eux, sous prétexte qu'effectivement, ils sont répréhensibles, tout ceci ne vient pas de la charité, c'est de l'aigreur. Parce que, pourquoi? Parce que la charité ne s'irrite de rien. Elle ne s'irrite même pas du péché d'autrui quand elle le voit. Ou alors vous allez dire, et la sainte colère. Ah oui, la sainte colère. Êtes-vous notre Seigneur dans le temple? Êtes-vous Moïse? Êtes-vous Élie? Êtes-vous Samuel? Bon, alors vous n'avez pas le droit de parler de sainte colère, vous ne faites que vous irriter et vous n'avez pas de charité, un point c'est tout. La charité, non seulement ne s'irrite pas, mais elle ne pense pas le mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a pas de mauvais soupçons. Ça veut dire que la charité s'efforce de ne voir le bien, de ne voir que le bien dans le prochain, comme elle cherche elle-même la justice. C'est-à-dire qu'elle juge les autres d'après elle-même. En fait, nous jugeons tous les autres d'après nous-mêmes, et si nous trouvons que le monde entier est rempli de malades et de méchants, c'est probablement parce que nous sommes malades et méchants. La charité, alors vous allez dire, c'est là où je ne comprends pas vraiment très bien. Alors ça commence mal, si vous dites ça, c'est que vous êtes en train de contester le Saint-Esprit. Bon, enfin, si vous voulez vraiment comprendre ce que vous dites, ce qui est dit, et vous ne pas dire de bêtises, il se trouve que la charité ici, ce n'est pas que la charité se crève les yeux pour ne pas voir le mal chez son prochain. Mais la charité, ça c'est, en fait, dans le fond, ça c'est un chrétien qui réfléchit, un chrétien avec une concupiscence prédominante, qui réfléchit en dehors de la pratique de la charité. La charité, c'est facile de dire, oui, mais alors ça veut dire qu'en fait, il faut être optimiste envers le prochain, taisez-vous un petit peu. La charité, on réfléchit sur la charité en situation. Quand je suis un père de famille, que je suis marié à mon épouse, et que on me dit, le Saint-Esprit me dit, la charité n'a pas de mauvais soupçons, ça veut dire que tout ce que je vois faire à mon épouse, je dois d'abord, et qui m'irrite, je dois d'abord l'essayer de l'interpréter en bien pour voir si il ne se pourrait pas que j'interprète mal quelque chose qui procède d'une bonne intention. Et plus souvent qu'on peut l'imaginer, notre prochain spécialement le chrétien, a de meilleures intentions qu'on peut l'imaginer. Mais il arrive parfois qu'il n'arrive pas à les manifester, il arrive parfois que la faiblesse ou les circonstances font que ses bonnes intentions ne sont pas perceptibles, et il se peut aussi, il arrive non pas peu souvent, mais assez souvent, que nous soyons nous-mêmes dans de mauvaises dispositions qui nous font tout interpréter en mal. Imaginez que vous êtes un mendiant mal luné, et puis il y a quelqu'un qui vous brandit un morceau de papier sous le nez. Qu'est-ce que vous allez dire? Qu'est-ce que c'est? C'est une manière de faire ça? Qu'est-ce que c'est cette manière de faire? Je demande rien à personne. Oui, mais calmez-vous. Vous êtes quoi? Vous êtes un mendiant. Vous êtes dans une position, vous l'avez peut-être oublié, mais vous êtes dans une position où vous demandez l'aumône. Cette personne qui est devant vous, pourquoi est-ce que c'est une personne qui, a priori, viendrait secouer des papiers sous le nez des mendiants? Ouvrez les yeux, arrêtez d'être mal disposé et voyez que c'est quelqu'un qui vous tend la main et que dans cette main, il y a un gros billet. Ah oui, mais j'ai cru. Si on pouvait arrêter d'avoir une petite... Si nous pouvions arrêter, mes très chers frères, d'avoir notre petite idée sur notre prochain et essayer de voir par la charité les choses telles qu'elles sont, lorsque nous verrons notre prochain faire le mal... Nous réagirions, lorsque nous verrions notre prochain faire le mal, nous réagirions avec La charité dont Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pleins de malice et de maux envers lui. Et lorsque nous verrons notre prochain faire quelque chose qui nous paraît incongru, mais que nous l'analysons avec la charité, nous nous apercevrions que la chose nous apparaît incongrue parce que nous sommes mal lunés. Donc vous voyez, c'est facile à dire, les petits combattants, les petits va-t-en-guerre qui disent « Oui, alors la charité ne pense pas le mal, donc du coup il faut les gouvernements, etc. Il ne faut pas essayer de discerner. » Qui vous parle de gouvernement ici? On parle du prochain, de votre relation avec le prochain. Vous avez une relation avec le gouvernement, vous? Ah oui, mais parce que... Commencez déjà par être en ordre. Commencez déjà par avoir la charité envers votre prochain proche. Vous les enfants, commencez par respecter vos parents et par penser, par développer la charité qui vous fera comprendre que, a priori, tout ce qu'ils vous demandent n'est pas rébarbatif et n'est pas idiot et n'est pas contraire à la justice et à la saine raison. Vous les maris, lorsque vous tournez votre épouse, ayez la charité pour voir qu'elle n'est pas, c'est pas simplement une bécasse qui jacasse et qui dit n'importe quoi, mais que peut-être qu'elle a quelque chose à dire. Lorsque vous, les épouses, vous tournez votre mari, qui bien souvent il vous semble qu'il agit d'une façon stupide, etc., alors qu'en réalité il agit selon un ordre plus élevé et qui vous échappe peut-être, vous voyez mes très chers frères, et même pour les autres, les uns les autres, les religieux, les prêtres, etc., lorsque nous, a priori, nous pratiquons la charité, lorsque, a priori, nous, parce que c'est un caractère qui vient après tous les autres, il y en a encore quelques autres après, mais ils viennent après. Lorsque nous avons mis en pratique la charité et que nous sommes patients, pleins de bonté, non pas envieux, non pas téméraires, etc., il se trouvera que nous arriverons à voir comment la charité peut nous faire interpréter en bien ce qui est bien chez notre prochain et nous faire rectifier ce qui est mauvais chez le prochain. Évidemment, pour l'amour-propre, l'amour-propre est plein de malignité, et lorsque notre prochain n'est pas vraiment pervers et nocif, et alors même qu'il pourrait être bon, eh bien nous arriverions quand même à trouver des motifs pervers et nocifs chez lui. Alors vous voyez, mes très chers frères, il vaut mieux pratiquer la charité plutôt que parce que ça nous fait remonter la pente, plutôt que nous laisser aller à l'amour-propre qui nous fait dévaler des pentes et bien souvent nous fait provoquer des catastrophes et ou aggraver des situations déjà pas commodes. C'est pour cela que la charité, nous dit saint Paul, eh bien, ne se réjouit pas de l'injustice. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, dit saint Paul, mais elle se réjouit de la vérité. Il se trouve que la charité gémit de ce qui déshonore Dieu. Donc elle ne peut pas se réjouir de l'injustice. Et là, il y aurait bien des choses à dire, voyez-vous, mes très chers frères. Lorsque nous voyons des gens se lancer dans des ministères, des gens qui ne sont pas dans l'Église, hein, qui ne se prétendent même pas chrétiens, mais dans des ministères d'enseignement, toutes sortes de choses, d'analyse, et qu'ils sont marcionnistes, qu'ils sont finalement libres penseurs, etc., et que nous les voyons souffrir, à cause de ce qu'ils font, en conséquence de ce qu'ils font, et que nous nous affligeons de ce qu'ils souffrent, ce n'est pas par la charité, c'est une complicité dans le mal et dans le naturalisme que nous manifestons. Lorsque nous réjouissons lorsque nous nous réjouissons qu'ils ont une large audience, lorsque nous nous réjouissons qu'ils sont beaucoup lus, beaucoup écoutés, nous nous réjouissons de l'injustice en réalité, et nous n'aimons pas Dieu, d'ailleurs nous n'aimons pas notre prochain, mais nous en l'occurrence, mais nous n'aimons pas Dieu parce que nous n'aimons pas, nous aimons quelque chose qui est une injustice. Et se réjouir de la vérité, qu'est-ce que c'est se réjouir de la vérité? Eh bien mes très chers frères, par exemple, pour prendre un exemple qui est assez commun, se réjouir de la vérité, c'est se réjouir quand on entend dire que la militance est quelque chose de mauvais dans l'Église, qu'il est contraire à l'ordre, et qu'il mène à l'enfer plutôt qu'au ciel. Vous allez dire, ce n'est pas très réjouissant pour certaines personnes. Réjouissez-vous, mes frères, parce que c'est vrai. Réjouissez-vous parce que c'est vrai. Et si vous vous réjouissez de voir les militants qui font toutes sortes de choses, qui écrivent toutes sortes de choses, qui font toutes sortes de choses, qui publient toutes sortes de choses, si vous dites « Ah, voilà, ça c'est bien, ça c'est très bien », sachez que vous n'avez pas la charité et que cela ne sert de rien. Pourquoi ? Parce que tout ceci, c'est pour le diable. Tout ceci, c'est pour le désordre. Lorsque vous donnez à des militants qui sont comme des parasites et qui ponctionnent le peuple de Dieu, le peuple des moutons qui ne font rien, et qu'ils les ponctionnent pour faire toutes sortes de choses que Dieu ne leur a jamais demandé de faire, et que vous applaudissez et que vous, comment est-ce qu'on dit, le mot m'échappe, enfin bon, que vous retransmettez, enfin que vous diffusez, comme on dit sur l'internet, eh bien, vous faites le contraire de la charité. Le contraire de la charité, c'est la concupiscence. Et la concupiscence, c'est la puissance du diable en nous, sous un certain rapport. Et si le diable n'existait pas, la concupiscence suffirait pour nous faire damner. Hein. Donc c'est une chose terrifiante. Elle se réjouit de la vérité. Elle gémit de tout ce qui déshonore Dieu. Elle fait preuve d'un zèle contre ses propres péchés. J'apprends quelque chose, j'apprends que ce que je faisais est mauvais. Eh bien, je m'en réjouis, parce que je vais commencer à être en guerre contre ce que je faisais jusqu'à présent et que je croyais être bon. Je me laissais aller à telle ou telle occupation, je faisais telle ou telle chose, je lisais telle ou telle chose, je fréquentais telle ou telle chose, et je m'aperçois que c'est mauvais parce que l'Église m'enseigne que c'est mauvais. Eh bien, Deo gratias, la charité se réjouit de la vérité. Elle se réjouit, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit quand elle peut être rectifiée. En revanche, évidemment, l'amour propre est incapable, il est incapable de tristesse sur ses propres péchés. Et il se réjouit plutôt des péchés des autres. Lorsqu'il voit les autres péchés, il dit « Ah, regardez-moi ces pécheurs, ces gros mondains, ces gros libéraux, en revanche, je suis... » Évidemment, c'est facile, c'est facile. Vous voyez, comme l'amour propre, c'est vraiment l'anticrucifixion. L'amour propre, c'est le, si j'ose dire, l'amour propre, c'est comparé à l'œuvre, l'opération de la charité, l'amour propre, c'est une salle de musculation où on devient plus fort, plus beau, plus musclé, plus grand, tandis que les opérations de la charité, c'est une salle de torture. La seule chose, c'est que tout dans la salle de musculation, tout ceci se termine dans le cercueil avec les vers et la pourriture. Et dans la crucifixion, la salle de torture, entre guillemets, parce que c'est plutôt la salle du potier où le potier façonne le vase qui l'honorera, eh bien, ça a pour but, ça a pour fin une récompense éternelle. Elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle souffre tout. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle souffre tout. C'est-à-dire que la charité supporte, accepte tout ce que Dieu lui envoie, contrairement à la concupiscence qui ne supporte rien, justement. Elle souffre tout ce que Dieu lui envoie, tous les contretemps. C'est pour cela que les auteurs nous disent qu'il y a un parallèle avec la patience. Mais si nous avions le temps de développer, nous verrions que ce n'est pas du tout la même chose, la patience et le fait de tout supporter. Elle souffre tout de la part de Dieu. Il se trouve qu'elle elle ne se révolte jamais envers Dieu, vis-à-vis de Dieu. De même, ce qui fait que, souffrant tout, nous disent les auteurs, elle est heureuse dès ce monde. Elle anticipe le ciel. Elle fait de tout ce que Dieu lui envoie à supporter une occasion de gratitude envers Dieu, ce qui fait que, et c'est là où ça ne s'invente pas, en souffrant tout, elle triomphe de tout. En revanche, l'amour propre, évidemment, est indifférent à tout ce qui ne va pas dans son sens et il ne supporte rien, mais ce n'est même pas la peine de le faire remarquer. Elle croit tout, mes très chers frères, elle souffre tout, elle croit tout, elle souffre tout. Les auteurs nous disent que cela s'applique à Dieu particulièrement. Elle croit tout, c'est-à-dire qu'elle croit tout ce que l'Église nous enseigne, de telle sorte qu'elle ne fait pas des choix dans ce qu'il y a à croire. Elle croit toutes les maximes du Christ, elle croit toutes les maximes, toutes les doctrines de l'Église, même celles qui prescrivent les mortifications. En revanche, l'amour propre a une foi très faible, une foi qui est morte du point de vue des œuvres, une foi infidèle et une foi, si j'ose dire, qui est rebelle. C'est-à-dire que dès que quelque chose ne va pas dans son sens, spécialement dans la doctrine de la charité, alors l'amour propre, évidemment, trouve que le christianisme est ambigu et que le christianisme a des zones d'ombre qui doivent être compensées par d'autres choses. Et c'est comme cela que, loin de croire tout, par la charité, un certain christianisme, spécialement, pas toutes les formes de christianisme militant, ça c'est vrai, il ne faut pas être injuste, mais un certain christianisme militant, eh bien, va s'abreuver aux sources du paganisme pour compenser certains défauts du christianisme. En ce sens-là, cette charité-là, si j'ose dire, s'il est encore vivante, ne croit pas tout, et même elle adultère la foi. Il y aurait bien des choses à dire là-dessus. La charité espère tout. Elle espère tout, et alors là, il y a quelque chose de magnifique, c'est-à-dire que la charité ne met pas de borne à l'espérance, la vertu d'espérance. Elle tire, nous dit un auteur, elle tire de son néant et de son impuissance même un sujet d'espérer. C'est-à-dire que plus elle aime Dieu, plus elle se connaît telle qu'elle est elle-même, plus l'âme, embrasée par la charité, a de motifs d'espérer. C'est-à-dire que puisqu'elle sait que ce n'est pas elle qui obtiendra par ses propres forces son salut, mais que c'est elle, mettant à profit la grâce de Dieu agissant en elle et par elle, qui obtiendra le salut, elle a toutes les raisons d'espérer. Elle tire de son néant et de son impuissance même un sujet d'espérance. Elle croit les autres plus fidèles qu'elle. C'est pour cela que, s'humiliant sous la main puissante de Dieu, eh bien, elle mérite cette charité, elle mérite un accroissement d'espérance et une obtention plus rapide même, si Dieu veut, de ce qui est promis à la foi et à l'espérance. En revanche, évidemment, l'amour propre cherche toujours dans son propre fond les raisons des grâces qu'il veut s'attribuer. Il est jaloux de Dieu et il est jaloux des autres. Cela rejoint ce que nous avons dit sur l'envie. L'envie, l'amour propre n'aime pas il n'aime pas méditer son néant, puisqu'il veut espérer que Dieu le récompensera pour ses efforts propres qu'il a fait lui et personne d'autre. Eh bien, l'amour propre sera déçu. Et il se trouve que la charité supporte tout. Elle supporte tout pour Dieu, parce que tout n'est rien et que Dieu est tout, dit un auteur. Elle souffre tout pour son salut sans se plaindre. Vous voyez, elle supporte tout. Est-ce que ça veut dire quoi? Donc il faut se laisser traiter comme un paillasson. Mes très chers frères, vos péchés exigent que le monde entier vous traite comme un paillasson. Voilà ce qu'il faut nous dire. Après, évidemment, il y a des modalités, effectivement, c'est pour ça qu'il faut être en lien avec un confesseur, il faut être en lien avec un bon directeur, de telle sorte qu'il puisse nous dire exactement ce que nous devons faire, etc., en fonction de notre état, etc. Un père de famille ne peut pas se laisser traiter comme un paillasson par ses enfants, etc., par sa femme, c'est évident, bien entendu. Mais si on doit dire d'une façon rebelle, ah, mais alors, finalement, ça veut dire qu'on peut marcher dessus comme ça? Dans l'absolu, oui. Dans l'absolu, oui, vous le méritez, vous l'avez mérité, nous l'avons mérité. C'est pour cela que la charité souffre tout, et plus elle supporte tout, elle souffre tout dans le sens de souffrir cette fois-ci, plus elle supporte tout, et plus aussi, eh bien, elle deviendra forte, et ce qu'elle doit souffrir à cause de ses péchés, eh bien, ne sera plus qu'une dette relativement rapidement épongée. Et ça, on y pense peu. Plus nous nous laissons humilier, plus nous nous laissons souffrir de par la main des autres, plus aussi nous épongeons notre dette. Il ne faut jamais l'oublier de le voir sous cet angle-là. Elle souffre tout pour Dieu, parce que tout n'est rien et que Dieu est tout. Elle souffre tout pour son salut, sans se plaindre. Alors qu'évidemment, l'amour propre n'aime que lui-même, il est impatient du joug du Christ, quand bien même serait-il doux et léger pour lui, eh bien il est impatient parce qu'il est encore trop lourd, il est encore trop incommode, etc. Évidemment, l'amour propre ne supporte rien, bien entendu. Il ne pense qu'à jouir de la vie présente, il croit que tout est fait pour lui et qu'il ne doit rien à personne. Je pense que nous nous retrouvons tous dans cette description. Alors, mes très chers frères, comment nous préparer au carême? C'est très simple, mes très chers frères, en méditant cette parole de la fin du trait. C'est lui, en parlant de Dieu, c'est lui qui nous a fait et non pas nous-mêmes. Nous sommes son peuple et les brebis de son pâturage. C'est lui qui nous a fait. Nous devons vivre, mes très chers frères, dans la gratitude. Vous allez dire, mais vous l'avez déjà dit au début, puis vous dites qu'on doit le faire tout le temps. Plus que jamais, nous devons comprendre que la gratitude, c'est une charité en acte, c'est-à-dire c'est une charité vivante, si vous voulez. Plus nous voulons nous préparer au carême, plus nous devons être pleins de gratitude pour pouvoir tout souffrir, ce que nous aurons à souffrir, parce que nous aurons quand même quelques petits désagréments à souffrir pendant ce carême. Le carême, c'est le temps de pénitence pour l'ingratitude. Donc au lieu d'être ingrat pendant notre carême et de ne pas faire pénitence pour l'ingratitude, entrons dans ce carême avec un très grand désir d'être reconnaissant envers Dieu. Et pendant ce temps, et même dès maintenant, en attendant, crions avec l'aveugle de Jéricho, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Fils de David, ayez pitié de moi. » Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Merci.